Mercredi, je crois que c'est une date spéciale. C'est bien mercredi, Noël. Alors, ce matin, même si ce n'est pas notre culte de Noël, entre guillemets, eh bien, on va rester sur cette période. Et ce matin, j'aimerais relire avec vous ces passages pour nous intéresser aux différents personnages que nous trouvons dans les récits de Noël. Récits de Noël, vous allez dire, peut-être ce mot n'apparaît pas d'ailleurs dans la Bible. Ça dépend. Hier, en distribuant les traités, je demandais aux gens parfois s'ils savaient juste ce que signifiait le mot Noël, et personne ne savait d'ailleurs, hein, son étymologie. Voilà, simplement c'est naissance. Naissance. Et nous trouvons cela dans deux évangiles. Il y a deux évangiles qui parlent des événements de la naissance du Messie. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Et ce matin, au travers des différents personnages, on va simplement se poser la question pour nous-mêmes, quel accueil ont-ils fait au Messie? Quel accueil? Et on va s'intéresser à tous ces personnages dont l'accueil a été positif. Il n'y a que Hérode dans le récit. Qui n'est pas du tout positif, lui, hein. Mais on va le laisser de côté, Hérode. Aujourd'hui, on va simplement s'intéresser à ces différents groupes de personnes ou personnages et ce que la venue de Jésus a suscité dans leur vie. Et peut-être, nous avons, en ce moment besoin plutôt de retrouver ce que tel personnage a éprouvé face à Jésus, ou plutôt nous avons besoin de nous calquer sur ce que tel autre personnage a, comment il a réagi face à cette venue de Jésus, alors qu'on puisse se retrouver ou se trouver, ou se chercher, en tout cas dans l'un ou l'autre, ce matin. Alors, pour vous donner un petit aperçu juste de ces personnages dans ces deux évangiles, ils sont vraiment différents dans les deux. L'évangile de Matthieu, je dirais que c'est là où on voit le moins de personnages de la Nativité. Dans l'évangile de Matthieu, nous voyons néanmoins deux événements et la focalisation sur deux personnages qu'on ne retrouve pas dans l'évangile de Luc. Voilà, ça se complète. Donc dans l'évangile de Matthieu, on va en particulier voir Joseph. Joseph, il est vraiment ce qui se passe dans son cœur, tout ça, c'est l'évangile de Matthieu. Et puis on va aussi voir dans l'évangile de Matthieu les mages dont Jean-Denis a parlé déjà tout à l'heure. Voilà, c'est dans cet évangile qu'on trouve ces personnages venus de loin d'Orient et qui sont venus adorer Jésus et lui offrir des cadeaux. Et puis tous les autres, c'est dans l'évangile de Luc qu'on les trouve. Et on va trouver chronologiquement d'abord ce couple, Zacharie et Élisabeth, qui sont parents de Jésus. Ensuite, on va trouver plus particulièrement Marie. Et puis, on va retrouver un petit peu courtement Joseph au moment de la naissance. apparaissent enfin les bergers, que nous n'oublions pas dans nos crèches provençales. Et 8 jours après, lors de la présentation au temple, Siméon et Anne. Voilà un petit peu les différents personnages dont on va se rappeler ce matin pour examiner un petit peu ensemble quel point plus particulier va ressortir en eux. Alors c'est parti. Hein ? Par lequel commencer ? Peut-être nous pouvons commencer par Marie. Marie, voilà cette jeune femme qui est fiancée et à qui il va arriver ce chamboulement du choix de Dieu pour qu'elle puisse être cette maman qui accueille Dieu qui se fait homme. Tout un chamboulement. Et face à la venue de ce Messie, il y a un point, ce n'est pas le seul, mais c'est le seul que je relève ce matin. Hein. Il y a un point qui me touche et que l'on trouve en Luc 2, au verset 19. Alors prenez l'évangile de Luc. Luc, chapitre 2. Voilà que Jésus est né, c'est au verset 6, et puis il y a les bergers à qui les anges vont apparaître, qui vont annoncer la naissance du Messie, et les bergers vont aller trouver ce nouveau-né, et Joseph et Marie. Et puis ils y vont, ils disent, mais c'est incroyable, tout ce qui nous a été dit, on le trouve exactement comme on nous l'a annoncé. Et Marie, face à tout ça, tout ce qui se passe, au verset 19, il nous est dit d'elle que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà un trait que l'on va retrouver d'ailleurs chez Marie face à ce Jésus qui grandit. Et même à 12 ans, quand il va dans le temple, c'est dans le même chapitre, au verset 51, la même expression nous est redite un petit peu. Après cet épisode où ses parents l'avaient perdu à Jérusalem, il était resté un peu de panique, et puis il dit, mais il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et au sortir de cet épisode, comment est-ce que Marie finalement réagit ? Eh bien, il nous est dit à la fin du verset 51, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Voilà peut-être une attitude, peut-être, dont nous avons besoin en ce moment, peut-être. Cette attitude d'observer Dieu qui est à l'œuvre, d'observer ce qu'il fait, comment il agit, et puis de les garder dans notre cœur, de les repasser dans notre cœur, ce chérissement intérieur, est-ce que Jésus, dans ma vie, suscite un chérissement intérieur où je passe, où je repasse dans mon cœur ce qu'il concerne et puis ce qu'il concerne et son impact dans ma vie et son œuvre autour de moi. Voilà ce que faisait Marie. Et peut-être nous avons besoin en ce moment de ce temps plus intérieur où on s'arrête et où on prend le temps de ressasser, de digérer, de méditer, de chérir dans notre cœur l'œuvre du Seigneur Jésus pour nous. On va continuer avec Joseph, puisqu'on a commencé avec Marie. On va continuer avec Joseph. Et Joseph, lui, la venue du Messie fait émerger, je dirais, une autre caractéristique, et peut-être aujourd'hui nous avons besoin de celle-là aussi. On la trouve, par exemple, en Matthieu 1, et ce qui ressort avec Joseph, c'est son engagement. Voilà quelqu'un qui, lorsque Jésus entre dans son existence, il s'engage. Et l'engagement de Joseph, c'est l'obéissance d'une part et l'action d'autre part. Il obéit, il agit. Et systématiquement, nous voyons Joseph se lever pour obéir et agir. Voilà un homme d'action qui s'engage. Qui s'engage dans un contexte qui n'était pas si évident, avec une fiancée enceinte dont il n'était pas le géniteur aux yeux de tous ceux qui sont autour, hein, les regards extérieurs qui sont posés. Mais le Seigneur lui parle, il obéit, il se lève, il agit, il s'engage. Et nous le voyons, par exemple, au verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il fait ce que le Seigneur ordonne, il s'engage. Il va accompagner jusqu'au bout, sans se défiler, pour prendre soin. Il s'engage. C'est encore à lui que le Seigneur va s'adresser lorsque il y a du danger. Lorsque Hérode veut faire arrêter et tuer cet enfant à Bethléem, duquel il a entendu parler parce que les mages sont arrivés au palais. Et nous le voyons au chapitre 2, par exemple, et au verset 14. Là encore, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Voilà un homme d'action. Il entend la parole du Seigneur, il obéit, il agit. Et puis lorsque c'est le temps de revenir au verset 21, le Seigneur lui dit au verset 20, « Lève-toi, prends le petit enfant et va dans le pays d'Israël. » Eh bien, Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla. Voilà, Voilà un homme qui obéit, qui agit, qui s'engage. Est-ce que l'accueil que nous réservons au Messie dans notre vie, c'est un accueil qui se traduit par de l'engagement? Je me lève pour Jésus. Amen. Nous avons ensuite d'autres personnages. Nous allons prendre Élisabeth. Élisabeth est mariée à Zacharie et c'est maintenant une femme qui n'est plus dans la fleur de sa jeunesse et qui a eu le chagrin de ne pas avoir d'enfant. Elle est stérile. Et voilà que tous ces événements autour de la venue du Messie et de son précurseur, eh bien, fait que sa vie à elle aussi est chamboulée, parce que le Seigneur vient, il s'adresse à Zacharie, il lui dit: tu vas avoir un fils et ce sera le précurseur du Messie. Il parle de Jean-Baptiste. Et voilà tout un chamboulement, et Élisabeth effectivement devient enceinte, et voilà que sa cousine Marie également est enceinte. Et chez qui va-t-elle pendant quelques mois? Eh bien, Marie quitte son village et vient habiter chez Zacharie et chez Élisabeth. Et voilà ce moment très célèbre où Marie entre chez Élisabeth, et à l'intérieur du ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste tressaille d'allégresse, et nous voyons Élisabeth exprimer son adoration. Alors prenons simplement, relevons quelque chose. Donc c'est en Luc, on retourne dans Luc, Luc 1. Et je relève deux expressions. D'abord au verset 36, c'est l'ange qui parle à Marie et qui lui dit: voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'on relève là, c'est que celle qui était, qui vivait, je dirais, un vide maternel, une stérilité, eh bien maintenant, elle a le ventre rempli. Attention, non pas de tous les gâteaux de Noël, hein. Mais voilà que, effectivement, ce ventre maternel qui jusque-là était vide, stérile, eh bien, il est fécond et il est plein. Et il n'y a pas de surprise de voir donc, un petit peu plus loin, au verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Nous voyons vraiment chez Élisabeth l'action de Dieu qui remplit, qui comble le vide. Autant ce vide maternel, ce sein maternel qui jusque-là était vide, le Seigneur le comble et le remplit, et il l'a rempli du Saint-Esprit. Amen. Quel accueil pour le Messie. Oh, nous sommes exhortés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je veux laisser le Messie remplir les vides de ma vie, remplir ce qui est stérile remplir ce qui est désert et desséché. Il est celui qui abreuve, il est celui qui remplit, il est celui qui comble. Amen. Est-ce qu'on veut lui réserver cet accueil-là? Seigneur, j'ai besoin de reconnaître que je suis vide et stérile, et j'ai besoin de proclamer que tu es celui qui remplit, et je le crois. Voilà. Disons ça au Seigneur, et il le fera. Il remplira là où nous nous sentons vides. Il est celui qui remplit. Nous avons bien sûr Zacharie, on va continuer avec lui, et il ressemble beaucoup à sa femme. Sauf que lui ne passe pas du vide maternel à la plénitude du Saint-Esprit, mais il passe du doute à la plénitude du Saint-Esprit. En Luc 1, verset 20, nous le voyons douter. Il ne croit pas trop que sa femme va pouvoir être enceinte dans sa vieillesse et enfanter un fils. Il est sceptique, il demande des preuves. Et puis Gabriel, qui est envoyé, ne se laisse pas tromper, hein, je dirais. Et il lui dit, voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Ça nous arrive, nous aussi, hein, de douter, d'être incrédule. Ben oui. Mais quand Jésus vient, il nous fait passer du doute à la foi. Et nous retrouvons Zacharie qui, après un temps de mutisme, un temps où il a dû certainement beaucoup réfléchir puisqu'il ne pouvait pas trop parler, eh bien, tout ce temps va être fructueux, et quand il va ouvrir sa bouche, il va dire des choses extraordinaires, parce qu'il sera lui aussi rempli du Saint-Esprit pour prophétiser, pour prêcher. Nous le voyons au verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Formidable, hein, nous voyons ce couple en fait, à la fois Élisabeth d'une part, dont il est dit qu'elle fut remplie du Saint-Esprit, et puis ici Zacharie, il fut rempli du Saint-Esprit. Élisabeth passe du vide maternel à cette plénitude du Saint-Esprit, et Zacharie du doute à cette plénitude. Le Seigneur est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, à son achèvement. Et le voici plein du Saint-Esprit pour prêcher, pour prophétiser. Et il ouvre la bouche et il annonce des choses. Il a une parole publique et il a un ministère public. Il est sacrificateur. Il est serviteur de l'Éternel. Et la venue de Jésus dans son existence, cette venue annoncée du Messie, eh bien, elle fait de ce serviteur quelqu'un qui ouvre la bouche pour Jésus et qui prêche en étant rempli du Saint-Esprit. Est-ce que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à ouvrir la bouche et à prêcher pour Jésus? Nous voyons quelqu'un qui est pleinement là-dedans. C'est Anne. On va regarder maintenant Anne, une autre femme bien âgée, mais qui a un cœur pour le Seigneur, qui a un cœur pour Dieu et qui sert Dieu dans le temple. On la voit toujours en Luc au chapitre 2. Et au verset 36, il y avait une prophétesse, Anne. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Waouh ! Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Bon, on se dit, tiens, elle est toujours au temple, toujours dans la prière, dans le jeûne. Elle parle pas beaucoup aux autres, elle sort pas trop. Détrompons-nous. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne, quel accueil réserve-t-elle au Messie? Eh bien, c'est de la joie de partager la bonne nouvelle. Elle parle de Jésus à tout le monde. Voilà. Jésus dans son existence, Jésus dans sa vie, ça suscite quoi? Ça fait quoi chez Anne? Eh bien, je vais aller en parler à tout le monde autour de moi. Peut-être on a besoin en ce moment d'avoir quelque chose de Anne. Peut-être que le Seigneur nous invite à avoir un cœur comme le sien qui nous pousse à ouvrir la bouche pour Jésus et parler de lui à tout le monde. Amen. Voilà une autre réaction. Et elles sont toutes bonnes. Du chérissement intérieur de Marie qui repasse les choses dans son cœur. À Joseph qui s'engage, un homme d'action. Ou à Anne, cette évangélisatrice qui parle de Jésus à qui veut l'entendre. Ah, à côté d'Anne, on a Siméon. On a Siméon aussi dans le temple. Et voilà, un homme âgé qui était juste, pieux, verset 25, et il attendait cette consolation d'Israël, il attendait ce Messie. Et lui aussi, l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Voilà un homme à qui Dieu avait fait une promesse formidable, puisqu'il attendait la consolation, il attendait ce Messie. Et Dieu lui avait dit, « Eh bien, écoute, je ne te reprendrai pas auprès de moi tant que tu n'auras pas vu de tes yeux le Messie en chair en os qui est là, qui est arrivé. » On ne sait pas combien de temps Siméon a attendu, mais lorsque il prend le petit enfant dans ses bras, au verset 28, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Voilà un Siméon comblé. La pleine suffisance d'une attente patiente et exaucée. Voilà ce que Jésus suscite dans sa vie. Voilà un homme qui a attendu, qui a compté sur la promesse. Et de la même manière, le Seigneur nous fait des promesses dont on attend avec patience l'accomplissement, la réalisation. Et puis un jour, eh bien Dieu exauce. Voilà qu'un jour arrive l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur nous a faite. Et nous avons un cœur qui qui est juste satisfait, qui dit, mais Seigneur, tu as fait ce que tu as dit, j'en suis heureux et je suis dans cette paix. C'est formidable. Souvent, notre patience et notre confiance dans les promesses du Seigneur, cette patience est souvent exercée au sein des épreuves, des difficultés, de la douleur. Et le Seigneur nous a fait la promesse de préparer l'issue pour que nous puissions la supporter. Jésus dans notre vie, c'est comme pour Siméon. Ça peut être cette attente persévérante qui tient ferme, qui compte sur la promesse du Seigneur, qui sait qu'elle viendra, et dont le cœur se réjouit le jour où Dieu exauce et qu'il accomplit. Enfin, nous terminons avec deux groupes, les bergers et les mages. Les bergers, nous les voyons en Luc. Eux, ils sont ébahis. Ils sont stupéfaits. Ils étaient tranquillement dans les champs, ils gardaient les moutons, puis tout d'un coup, il y a un ange qui vient leur parler, et tout d'un coup, il y a une multitude d'anges qui les rejoint, et qui leur annonce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et puis, il leur dit, en plus, vous le trouverez dans une crèche. Un enfant emmailloté, couché. Alors, au verset 15, les bergers ils se disent, bon alors qu'est-ce qu'on fait? Ben tiens, on va aller à Bethléem, on nous a dit qu'à Bethléem, il y a ce sauveur qui est né dans une étable, ben on va y aller, et voyons si c'est exact. Ils y vont en hâte, et puis ils trouvent effectivement Marie, Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Alors, après l'avoir vu, ils racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ils disent, ben voilà, en fait, on nous a dit de venir, on nous a dit exactement où il serait, dans quelles conditions. Incroyable. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et donc, les bergers, verset 20. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ce qui les émerveille, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils disent, mais on nous a dit ça, il y a eu ces anges qui sont venus, et bien c'était tout comme ils nous avaient dit. Il nous est né un sauveur, un Seigneur, et dans leur cœur, cette venue du Messie, c'est cet ébahissement, c'est cette joie et c'est cette louange qui monte du cœur. Est-ce que il n'y a pas dans la parole de Dieu des lignes et des lignes de choses que le Seigneur a annoncées d'avance et que je trouve, dont je trouve l'exactitude, alors qu'elle soit historique ou qu'elle soit tout simplement dans ma vie, tout ce qu'il dit dans sa parole, je le vérifie dans ma vie, je le vérifie dans mon cœur. Il est fort, le Seigneur. Il est glorieux, il est merveilleux. L'exactitude, la pertinence et la vérité de ce que Dieu dit et que je vérifie que j'authentifie dans mon existence. Voilà un ébahissement et une louange qui peuvent monter de mon cœur, comme celle des bergers. Et enfin, les mages. Oh, ils sont bien connus, ces mages, en Matthieu. Ils ont fait un long chemin. Ils ont persévéré. Il y a eu cette quête. Où est l'étoile? On a perdu l'étoile. On cherche. Et puis voilà qu'ils trouvent. Et comme ils le disent, ils sont venus pour adorer. On va le lire. En Matthieu 1. Matthieu 2. Matthieu 2. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quel accueil pour le Messie ! De la joie, de l'adoration et des offrandes. Qu'est-ce que j'offre au Seigneur de mes trésors? Est-ce que l'accueil que je donne à Jésus dans ma vie se répercute par quelque chose que j'offre? D'abord mon adoration, d'abord ce cœur qui contemple et qui le dit. Et puis, pas seulement un émerveillement qui se dit, mais aussi ce que j'ai, ce que je suis, et que je peux apporter et offrir au Seigneur. Qu'est-ce que j'offre au Seigneur de ce que je suis et de ce que j'ai? Les mages ont ouvert leur trésor. Et ils ont offert au Seigneur. Moi aussi j'ai des trésors. Vous aussi vous avez des trésors. Peut-être en espèces sonnantes et trébuchantes. Peut-être en talent. En temps, en énergie, en don. Oh, on a plein de choses qu'on peut offrir au Seigneur. Amen. Alors, voilà tout simplement qu'à l'approche de cette période festive où on se rappelle la naissance de Jésus, Noël, la naissance, et bien tous ces personnages qui ont réagi les uns et les autres et où on relève chez chacun d'eux quelque chose de spécifique, que ça puisse nous inspirer et nous nourrir et nous questionner. Alors, est-ce que c'est comme Anne, le fait de partager la bonne nouvelle autour de moi, parler de Jésus à qui veut l'entendre? Peut-être c'est comme Joseph, m'engager et me lever pour Jésus. Peut-être c'est comme les mages, de l'adoration qui est offerte en même temps que d'autres aspects de mon quotidien et de ma vie et de ce que j'ai et de ce que je suis que je peux offrir au Seigneur. Peut-être c'est comme les bergers, cet ébahissement et cette louange, comme Marie, ce chérissement intérieur qui passe et qui repasse dans son cœur. Et puis, comme Zacharie et Élisabeth, être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est celui qui comble le vide et qui remplit. Il est celui qui est fidèle et qui tient sa promesse, comme pour Siméon. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que tous ces personnages, ils ont été saisis devant toi. Et ça a chamboulé, ça a transformé leur vie, leur existence, et tu chamboules et tu transformes notre existence. Seigneur, ce matin, tu vois, quels sont les aspects dans lesquels nous nous retrouvons en ce moment dans notre vécu personnel, et peut-être des aspects que tu veux mieux développer dans notre vie, parce que tu sais à qui en ce moment nous avons besoin de ressembler au travers de tous ces personnages de la nativité. Seigneur, touche nos cœurs et merci parce que tu nous aimes et tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es offert et notre vie en a été toute retournée parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sans espérance, mais nous avons trouvé, Seigneur, la joie en toi, le salut, l'espérance, la certitude et un ami à nos côtés. Merci pour tout cela. Et c'est par Jésus que nous prions. Amen.